Good afternoon. We will be starting in a few minutes, but in the meantime, I am going to make an announcement with regards to the Internet Town Hall.
Le Town Hall aura lieu à 6 heures. Sur le Sky Chat, nous avons un lien. Je ne sais pas s'il y a un lien sur le chat, sur la salle AC, on pourrait le faire. On va vous donner l'emplacement du Town Hall, qui est de la mairie, qui est à quelques pâtés de maison de plus bas. Beaucoup de gens vont se réunir vers 18 heures. Ça commence à 18 heures, mais on se rencontre à quelle heure en bas? Entre 17h30 et 17h45 devant l'hôtel. Certaines personnes vont partager des taxis, vont peut-être marcher un peu. On a passé toute la journée ici. Peut-être qu'on aimerait un peu se dégourdir les jambes. La discussion du panel va commencer à 18h30 jusqu'à 20h. Et je pense que Witt, qui est avec nous, je leur ai dit que je serai présent. J'avais une cocktail à Stanford, mais... Et pour le stationnement là-bas. Vous habitez dans l'État et moi, j'habite même pas du tout ici. Donc, désolé, j'ai aucune information à vous donner. Si vous voulez participer, si vous voulez vous y rendre, il est important de vous inscrire sur la page web qui est la voix, The Public Voice. / Town Hall, etc. Je suis en train de passer le temps jusqu'à... Et comme mise à jour, à 18 heures, il y aura la réception pendant 30 minutes, donc je pense que ce sera la nourriture grecque. À 18h30, la réunion publique aura lieu, le Town Hall. Donc si vous voulez vous dégourdir les jambes et avoir un petit... de quoi vous mettre sous la dent... Venez à 18h et le titre de cette réunion, c'est les questions émergentes pour la communauté en ligne. Donc, beaucoup de questions à débattre. Donc, on devrait commencer. Nous sommes la réunion à l'AC le 15 mars 2011. C'est la réunion du ALAC avec SSAC. Il est 15h37, seulement 7 minutes de retard. James Galvin et Patrick Felson vont nous parler des activités de outreach et de la collaboration pour la commission consultative sur la stabilité et la sécurité. Patrick, merci beaucoup. Patrick Felstrom, je viens d'être nommé président de ASAC. Et avec moi dans cette pièce, j'ai Jim Gallen, qui est la vice-présidente et également d'autres membres de SAC. Si vous voulez, levez-vous s'il vous plaît, qu'on puisse vous reconnaître. Donc, merci beaucoup. Donc, lorsque nous allons entrer... À partir questions, et on parle des divers documents et des activités que nous avons. Dans ce cas, il y a beaucoup de gens dans la pièce qui peuvent vous aider avec des questions plus détaillées sur les différentes parties du travail. Une bonne chose serait, quand vous êtes nommé pour la présidente, on n'a pas besoin de savoir ce que les gens font. Il faut tout simplement s'assurer qu'ils font leur travail. En tout cas, je vais parler maintenant sur pour le plan de travail pour 2011 et la collaboration à la Twitch en étant ici, par exemple, et ensuite une séance questions-réponses et une discussion. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, ce qu'on fait à ASAC, c'est que nous travaillons sur différentes questions. Certaines sont internes à ASAC et d'autres sont également externes, qui souvent débouchent sur la publication de documents. Donc, voici un exemple des différentes activités que nous avons pour le calendrier pour l'année 2011. Nous avons d'abord 4 parties de travail. Des validations de sources, des rapports DNS orphelins et des recrutements des membres. Mais on veut regarder, analyser des, certaines questions et on veut revenir à cela après, si on a le temps, si les gens sont intéressés avec, à recevoir des commentaires directs des membres. Et ça, qui traite ça? Et ensuite, on a trois processus que nous avons au niveau interne de la SAC. On a un processus de recrutement des membres où nous analysons le moment dans le processus pour le recrutement, l'évaluation, si on a les compétences requises dans ISAC, etc. Donc, on essaie d'améliorer cela pour s'assurer qu'on a toutes les compétences nécessaires pour produire des rapports de haute qualité. La prochaine chose pour moi très importante en tant que président, c'est ma responsabilité de m'assurer que la réunion ait lieu, mais également améliorer notre travail et surtout pour nous, comme comité consultatif, c'est important non seulement de produire des documents de grande qualité que nous pensons et nous pensons que nous avons réussi, mais c'est également le cas que nous voulons que la qualité des documents doit être mesurée pour savoir si le contenu du document est valable pour le parti récipiendaire, par exemple pour vous. Donc, si c'est le cas que vous travaillez sur quelque chose qui se rapporte à Ruiz, à d'autres questions, si c'est le cas et qu'il y a des questions techniques que nous également nous évaluons, il est important que le rapport que nous écrivons est quelque chose que vous pouvez utiliser dans votre travail. Et c'est quelque chose que peut-être lorsque je suis rentrée, j'ai regardé, c'est peut-être quelque chose qu'on peut améliorer. La dernière chose que nous faisons, c'est que nous examinons la manière d'effectuer la collaboration et à Twitch. Pour le moment, on s'est concentré sur des réunions comme celle-ci. Dans les réunions à ICANN, nous avons également des réunions à ITF pour rencontrer la communauté technique et nous rentrons chez nous et nous écrivons le document. Ce que nous avons vu dernièrement, lorsque il y a les choses se rapprochent du lancement du processus, on voit que parfois divers groupes à l'intérieur d'ICANN aimeraient obtenir des réponses plus rapidement de nous et des réponses à des questions uniques. Donc, on a essayé une fois cette semaine d'avoir une question à l'écrit et on a essayé de répondre dans un délai de 2 ou 3 jours si c'est possible de répondre à cette question. Bien sûr, les réponses sont peut-être un peu évasives, mais cela pourrait être évalué si c'est un travail que nous devrions entreprendre comme tâche. Et on l'a fait une seule fois. Je ne vais pas entreprendre d'autres liaisons directement avec des questions-réponses jusqu'à ce que je sache que c'était utilisable pour les deux parties qui étaient impliquées dans cet échange. Donc, on verra comment cela se déroule, mais nous cherchons à améliorer la collaboration entre ESSAC et d'autres parties prenantes. Le dernier volet de la collaboration, et c'est vous devez être donc actif dans certains des SOO pour communiquer comme organisation de soutien. Et de ma perspective, il est important que cette collaboration soit également sur une base individuelle. Et c'est pour la raison pour laquelle moi j'ai contacté mes membres ESSAC et je leur ai demandé beaucoup de venir, étant donné que agenda leur permettait, parce que je ne voulais pas que moi ou mon personnel soit. Il y a un goulot d'étranglement. Peut-être que parfois, il suffit de parler avec une des personnes dans ESSAC. Ce ne sera pas quelque chose d'une réponse formelle ESSAC, mais vous pouvez parler avec quelqu'un qui, dans sa capacité personnelle, vous donnera une évaluation et des suggestions sur la manière sur ce que faire et comment le faire. Donc, cela pourrait être précieux pour vous parce que la personne est membre de ESSAC en raison de son expérience personnelle et leurs compétences. Mais cette personne, deuxièmement, fait partie de la discussion des sacs, ils savent exactement ce que nous travaillons ou les questions sensibles, et il peut indiquer pour vous si vous rentrez dans un champ de mine et ou bien si vous pensez que vous êtes dans un champ de mine. Mais en fait, il s'agit d'une magnifique plage et vous pouvez continuer, en fait. Donc, trois niveaux de collaboration, comme je l'ai dit, le document formel que nous continuons à produire, nous essayons de voir si nous sommes en mesure de faire des questions-réponses rapides et surtout, très important pour moi également, la communication informelle. Mais il est utile d'avoir plusieurs niveaux de communication tant que les parties qui communiquent comprennent laquelle de ces canaux de communication sont utilisés. Si j'étais président, et Olivier et moi, on se connaît si bien. Si on comprend qu'il y a une petite confusion dans des canaux, on va tirer le levier immédiatement. Donc, tant que ça marche, continuez. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Si on regarde certains exemples de publications que nous avons publiées, je pense l'intérêt, le plus intéressant, c'est probablement le numéro 44 et 40, qui sont plus ou moins des directives se rapportant à l'enregistrement de noms de domaine. Si vous prenez 44, par exemple, c'est une directive avec beaucoup et beaucoup de questions et de réponses proposées que le registrant devrait poser avant de choisir un registraire. Bien sûr, le registrant ne tient compte d'aucune de ces listes s'ils ne se sont pas brûlés les doigts deux fois. C'est comme pour faire un backup, et les gens ne prennent pas un backup avant d'avoir perdu leur disque dur deux fois. La première fois, vous perdez votre disque dur et vous dites « Ah, ça ne se reproduira jamais plus, ça se produit une seconde fois. Oups !» C'est quelque chose qui se passe de temps à autre. Donc, c'est la même chose ici avec le guide. Donc, une des choses qu'on essaie de faire pour ESAC, à part de la publication de documents, maintenant, on essaie de... Comment pouvons-nous... vulgariser les documents pour que les gens ne les lisent pas seulement quand ils ont un problème. Ils lisent quand il y a un problème et ensuite ils comprennent ce qu'il y a un problème. Vous voulez que lire cela suive des conseils et évite les problèmes.
Mais pour cela, nous avons besoin d'un certain budget, etc. Mais bon, c'est notre objectif. La prochaine diapo. C'est aussi le cas. Et nous participons à un groupe de travail, à des groupes de travail. Ces groupes de travail, ce ne sont pas une surprise pour vous. Et nous essayons d'avoir des participants dans tous ces groupes, de façon à ce qu'il y ait toujours quelqu'un qui assiste à ces réunions et qui puisse donc participer à ces réunions, peu importe le sujet du groupe de travail. Il doit y avoir un membre de la SAC qui participe à cela. Donc, c'est notre objectif. Et cette personne ou ces personnes qui sont dans le groupe de travail vont avoir l'expertise technique pour travailler directement avec l'information et aider le groupe de travail. Et cette personne agit comme liaison aussi. Donc, si vous avez une personne de la SAC dans votre groupe de travail, allez la voir, parlez avec elle. Et nous verrons comment le canal de communication peut fonctionner, si vous avez besoin de plus d'aide, etc. Et nous verrons comment nous pouvons vous aider. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire ici pour cette diapositive. Ici, Jim, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Non. Bien, alors sur cette diapositive, je dirais que c'était un petit peu l'interaction, ma façon d'interagir dans votre travail. J'espère que ceux qui appartiennent à ICANN depuis plusieurs années connaissent et comprennent ce que nous faisons, se rendent compte du travail que nous faisons concernant les processus internes, les documents et les difficultés en général. Merci. Merci, Patrick. Et maintenant, les questions. Vous avez la parole. Il y a beaucoup de membres d'ASSA qui sont ici avec nous. Donc, si vous voulez, on peut revenir à la diapositive numéro 3. Le plan de travail de ASSAC pour l'année 2011. Merci. Et ici, vous voyez, on a ici donc les activités que nous menons actuellement. Nous acceptons des questions de la table et du public. Hein? Et Vendley Bovitch, vous avez la parole. Est-ce que vous pensez que vous allez vous en sortir comme ça? Non, j'allais me retourner. Je voulais voir ce que les membres de ESSAC allaient me poser comme question. Et plus vous parlerez, moins vous aurez de questions. C'est ça l'histoire. Peut-être que ma question est brève, mais la réponse sera plus longue. Dans la région de l'Amérique du Nord, on a un débat concernant la fermeture d'Internet en Égypte motivée par la politique. Est-ce que nous devons participer à cela? Et il y a beaucoup de problèmes d'insécurité, d'instabilité. On se demandait si cela dépend d'ICANN complètement ou s'il y a quelque chose dans cette question, dans ce problème que nous pourrions, des aspects de cette question que nous pourrions traiter. Et cette question donc a été posée par la communauté dans ma région. C'est une question intéressante. Merci. D'abord, je dirais que lorsqu'on fait notre travail à ESSAC, nous essayons toujours d'éviter certaines choses. La première, de nous engager dans tout ce qui concerne des décisions politiques. Nous faisons tout ce qui concerne le travail de base pour que les décisions politiques puissent avoir une base, quelque chose sur laquelle se baser. Mais c'est tout. L'autre chose que nous essayons de faire, c'est de toujours parler de cas généraux, pas de cas spécifiques d'événements, mais en parlant de cas généraux. La raison pour laquelle nous avons écrit certains rapports et la raison pour laquelle nous faisons allusion à certaines incidences précises dans nos rapports. Et dans la session préalable, nous sommes obligés, dans certaines sessions, nous sommes obligés de nous baser sur des événements qui ont eu lieu dans le monde réel en ce qui concerne ce qui se passe en Égypte. C'est quelque chose dont nous parlons tous actuellement. Ce n'est pas vraiment un pour ESSAC? Je pense que nous n'avons pas encore pris de décision et nous pensons qu'il y a un travail ici que ESSAC doit décrire l'impact que cela peut avoir d'avoir un blocage des noms de domaine parce que, comme vous le savez, lorsqu'on bloque cela de différentes façons, à différents niveaux sur le réseau, etc. Donc ici, nous parlons de la possibilité que ce type de blocage est une chose à laquelle nous devons nous intéresser, sur laquelle nous devons nous pencher ou pas. Voilà. Pour le moment, on en est là. Merci, Patrick. Question suivante. Voyons. Qui c'est qui a levé la main d'abord? Edmond. Edmond John. Merci, Edmond. J'ai une série de questions à poser, mais ce que Event a dit me mène à poser une autre question à mon tour. En termes de blocage de noms, je me demandais si cela est peut-être aussi lié aux questions de DNSSEC, une série de questions sur la validation des adresses sources et sur les enregistrements de DNS orphelin. Je me demande si... Oui, laissez-moi d'abord répondre la question du blocage. Hein? Ah, ici, oui. OK. Et ensuite, nous allons parler des deux autres problèmes. Une des choses, et c'est quelque chose dont on pourrait parler, le blocage, hein, lorsqu'on a une... est-ce que ça va avoir un impact sur le DNSSEC? Et cela concerne une série d'autres choses, parce que lorsqu'on bloque, cela va avoir une série d'effets. On va bloquer d'autres choses, on va bloquer des parties du serveur, et par conséquent, comme je l'ai déjà dit, actuellement, nous en sommes encore en train de discuter du fait et si nous devons nous occuper de cela ou pas. Donc, on en est encore là. Hein? Bien, si vous voulez. James, excusez-moi, vous devez vous présenter pour la traduction et la transcription. Oui, je crois que j'avais compris cela. Merci, Olivier. Je suis Jim Garvin et dans ce rôle de... je suis le président du comité de travail qui travaille sur le DNSSEC. Et donc, pour ceux qui ont suivi de près la question du guide, il y a une série de questions ici concernant les enregistrements DNSSEC orphelins. Il y a une série de points sur la sécurité des TLD et certaines actions ont été prises dans ce domaine concernant le rapport de DNSSEC orphelin. Cette partie était motivée par le fait que d'autres activités avaient lieu aussi et par le fait que c'était des associations et qu'il y avait des associations avec des enregistrements orphelins dans les activités qui étaient gérées. Donc, pour définir ce que c'est qu'un enregistrement DNS orphelin, il s'agit d'un enregistrement qui est au niveau du TLD qui a été laissé là et qui n'a pas de domaine parent défini. Et normalement, lorsque l'on cherche un site Internet dans un domaine en particulier, on va écrire le TLD et on va demander au TLD où trouver l'information sur ce domaine. Et le TLD va nous donner les enregistrements des noms de serveurs. Et pour répondre à cette question, ces enregistrements s'appellent les enregistrements GLU et ils peuvent être orphelins si le domaine parent a été retiré du TLD. Et il s'est apparu que ce que nous faisons dans notre groupe en particulier, et nous sommes en train d'y parvenir, c'est d'essayer de définir ce que le GLU orphelin est. Et dans différentes circonstances, il y a des enregistrements orphelins qui apparaissent. Il y a donc de bonnes raisons pour lesquelles les enregistrements orphelins peuvent apparaître. Et la première est que le registre va de temps en temps, dans le cas de certains registres, lorsqu'ils vont créer un domaine, lorsqu'on veut que ce domaine soit retiré de la zone et qu'il n'est pas retiré du registre, le nom existe, mais il n'a pas de rôle dans l'Internet. Si ce domaine en particulier à un enregistrement GLU associé dans certains registres, il va être laissé en arrière et il devient orphelin. C'est donc un exemple d'une bonne raison pour laquelle un enregistrement orphelin peut exister. Une autre raison serait que le point muséum, par exemple, et le point muséum comme TLD est un bon exemple parce qu'il vous permet au registraire de créer des noms de labels. Et donc, il y a une autre raison pour laquelle il pourrait exister validement dans un TLD en particulier. Et donc, dans ce groupe de travail, ce que nous faisons, c'est créer un document dans lequel nous allons décrire ces choses-là et faire des recommandations sur les problèmes et sur le fait que les registres ou les registraires doivent s'intéresser à et doivent développer des politiques d'enregistrement. Les personnes doivent connaître ces problèmes et considérer qu'ils doivent avoir une politique dans ces cas-là à appliquer. Et nous espérons que cela permettra de mettre en place un système de haute sécurité parce que nous allons créer une définition de l'enregistrement orphelin et ça va nous permettre de donner lieu donc à toute une série de mesures. Voilà, donc si vous avez d'autres questions concernant les enregistrements orphelins, nous serons ravis d'y répondre. Edmond, à nouveau, je pense que la raison pour laquelle j'ai abordé ces questions, et c'est parce que dans le, la question du blocage, par exemple, je pense que la raison pour laquelle j'aborde ce sujet, c'est parce que cela a un impact pour ALAC. Même si une fois que le rapport ESSAC est diffusé, on doit considérer la possibilité d'augmenter ce rapport. Et parce que pour les questions de blocage, il doit y avoir des questions pour lesquelles nous, nous devons nous préoccuper et nous pouvons donc ajouter notre déclaration à ce propos. Il n'est pas nécessaire qu'il y ait de période de commentaires publics pour cela. On veut peut-être ajouter des commentaires sur ce qui a déjà été dit. Et en ce qui concerne ces enregistrements orphelins du DNSSEC. Peut-être que si Jimmy pouvait en rajouter un petit peu concernant le point de vue de l'usager, parce qu'il y a des possibilités, d'après ce que j'ai compris, et que cela puisse donner lieu à une situation pour un usager dans laquelle il est dirigé vers une ressource différente qui ne correspond pas à celle qu'il voulait et donc atteindre. C'est pour cette raison que je pense que l'ALAC devrait être un peu plus devrait s'intéresser un peu plus à cet aspect de la question des noms de domaines orphelins. Une des raisons pour ESSEC d'avoir regardé cette question, d'avoir analysé cette question, c'est qu'il y a eu des constatations pour lesquelles les enregistrements GLOO pouvaient être utilisés de façon abusive et de mauvais acteurs pouvaient tirer parti de ces enregistrements. S'ils pouvaient avoir accès aux adresses IP, ils pouvaient mettre des observeurs ici et tirer parti du fait que les noms de serveurs sont définis, les noms sont définis, ils ont une adresse IP et ils pouvaient utiliser le nom de ce serveur et en tirer profit et de façon malveillante. Donc nous avons fait quelques études statistiques et sur des GTLD, sur d'autres TLD qui voulaient offrir des données à ce propos à Steve Shane Daikan, qui est un des membres de l'équipe de soutien pour le ESSAC. Et nous n'avons pas pu vraiment trouver de statistiques utiles pour démontrer que ces enregistrements sont utilisés de façon malveillante. Donc si vraiment nous constatons que cela a été fait dans certains cas, que cela est vraiment arrivé, ça nous intéresse. Mais jusqu'à maintenant, nous n'avons pas trouvé de preuves nous démontrant que c'est un problème important. Et donc, je pense qu'un usager ne va jamais trouver ce problème, ce type de problème, à moins qu'il se rende dans un domaine auquel il est arrivé à travers une autre action, une autre activité qui a tiré profit de l'existence de cet enregistrement. Mais sinon, ça ne devrait pas être visible à un utilisateur, pour un utilisateur. Merci. La prochaine question ou le prochain commentaire est de Tijani.
Thank you.
Headphone, please. OK. Ce n'est pas une question, c'est plutôt un commentaire. C'est plutôt un merci. Un merci que je vous fais pour votre réponse à Ivan quand vous avez dit qu'aucune considération politique n'intervient dans votre travail. Internet et ICANN, c'est comme de l'eau. Tout le monde doit pouvoir y accéder, les bons et les mauvais. Et les considérations politiques, ça doit être loin d'ICANN. Et c'est la raison, si vous voulez, la caractéristique la plus importante de cette organisation internationale. Merci.
Thank you very much, Tijani.
Merci beaucoup, Tijani. Maintenant, on va aller passer à un autre intervenant. Vous pouvez les introduire, Patrick. Patrick Francis, je voudrais m'éduquer Keo, membre de ESSAC, et je mène le groupe. Yes, it's not loud. Yes. Je ne suis pas habituée à l'aspect performance de tout cela. Je m'appelle Mehdi Kekeo et je mène la partie. partie sur la dressage dans ESSAC et ce travail a été mené grâce à des propositions de notre groupe. La compréhension, c'est qu'il y a beaucoup de trafic, circulation spoof pour les comportements malveillants. Le trafic, pendant qu'on envoie des emails, il y a une source, une destination, une adresse IP. Les adresses IP sont spoofées de trafic. Donc, il y a des adresses IP qui n'appartiennent pas aux personnes qui les utilisent. Donc, ce groupe de travail en particulier cherche à voir les techniques qui ont été élaborées au cours des 10 dernières années qui ne sont pas utilisées et cherche à trouver de nouvelles techniques pour valider les adresses sources. On essaie de déterminer s'il est logique pour que les gens, ou plutôt augmenter la conscientisation que cette technique existe et pourquoi elle serait utile en termes de pour pouvoir arrêter les activités malveillantes. Et l'intention est qu'il y aurait des recommandations et des résolutions pour la communauté dans son ensemble. Merci. Des commentaires du public en général? Il me semble que c'était toujours moins assez Edmond encore. Merci pour cette clarification. Et c'est vraiment la raison pourquoi je l'ai soulevé. Il y a des implications quant à ce que nous faisons, surtout pour le outreach, pour renforcer le travail. On pourrait utiliser cela pour contacter la communauté également. Je ne sais pas comment, si nous avons beaucoup de temps, si des gens aimeraient poser des questions. Je sais que je suis en train de serrer le microphone dans la main, mais je sais que j'ai une autre question là maintenant. Merci Edmond. On va demander si quelqu'un d'autre a une question, a des questions, une réponse peut-être. J'ai besoin d'avoir une vision 360 degrés. Je ne suis pas assez qualifiée, mais bientôt. Bonjour, je suis Dave Piskita de ICANN et il me semble que un exercice très intéressant que ALAC est en bonne position de réaliser est d'aider à collecter des informations sur les adresses IP spoofées. Il y a le projet Spoofer et si vous faites une recherche Google, vous allez voir le projet Spoof et vous allez trouver la page et vous pouvez télécharger un petit logiciel qui vous permettra de tester si votre ordinateur et votre réseau peut être utilisé pour spoofer des adresses IP. La valeur de cet exercice, c'est que vous permettez les gens dans AMIT de comprendre quelles raisons ne font pas de validation d'adresses sources. Cela nous donne une vision plus générale des points difficiles de l'Internet parce que il y a tellement d'organisation et on peut contacter des milliers de gens et MIT le peut. Je pense que ce serait un grand service à la communauté Internet si vous pouvez augmenter la conscientisation et permettre la participation, solliciter la participation de toute la communauté et des membres. Julie a le lien, elle va envoyer à Heidi et Heidi peut l'afficher sur Wiki. Fantastique, ça a l'air d'un programme excellent. J'allais demander la question à 1000 francs. Et est-ce que ce serait pour IPv4 ou IPv6? Je ne suis pas sûre que la réponse était oui. Super, super. D'autres commentaires et questions? Il me semble que nous allons revenir à notre expert en résidence, Edmond Chang. Merci. Edmond, à nouveau, pour ma prochaine question est mon thème préféré, ce sont les IDN. Donc, nous avons entendu plus tôt ce matin que ESSAC va analyser à nouveau les IDN et surtout les variantes IDN, parce que je ne le vois pas ici. Je me demandais si le travail a débuté, où il en est, ou dans quelle direction il prend, parce que je pose la question parce qu'il y a actuellement un nombre de groupes qui travaillent là-dessus et qu'est-ce qu'on pense en termes de coordination, etc. Donc, cher président de ESAC, pour pouvoir poser cette question, bien sûr, la personne est dans le public. Bonjour. Hamad Hossein. Donc, c'est quelque chose qui vient d'être lancé dans ESAC. Nous venons à peine formuler le parti de travail et nous avons une réunion de détermination de portée et nous participons dans d'autres activités qui ont lieu autour des IDN. Donc nous sommes très conscients par rapport à ce qui se passe dans le groupe de travail IDN avec les CCN et GNSO. Donc nous sommes pour parler également. Participons au projet avec le personnel ICANN sur différentes questions avec un joli acronyme IDNVIP. Donc nous parlons déjà aux gens, mais nous aurons des choses plus concrètes à dire au sujet du travail que nous allons prendre une fois après la première réunion qui se tiendra dans 2 semaines. Donc, nous pouvons revenir avec vous et vous fournir davantage de détails à ce moment-là. Merci beaucoup, Sharat. Et d'autres commentaires, questions? Patrick Felsholm, qui est à côté de moi, a lancé le programme pour vérifier le spoofing. Et je me demande quels sont les résultats pour notre réseau ici. Patrick Felsholm, qui est très heureux, qui pense qu'il peut faire une petite pause là. Pas d'autres questions. Donc, merci Patrick, merci James, et merci au reste de l'équipe qui est tous venus ici. Merci d'être venus en masse, et je suis sûre que à un moment donné, nous continuerons le dialogue. Merci. Merci beaucoup.
Spoofing scenario.
We only had to run around all the time.
I know, but I want to walk. I'm just stuck.